Saluton!
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 Saluton! Saluton.
Saluton al ciui, bonjour à tous, kai bonvenon en nia elsendo saluton, et bienvenue dans notre émission Saluton. Le château de Grésillon, ce haut lieu de l'espéranto où nous avons réalisé les précédentes interviews, est situé dans le Maine-et-Loire, sur la commune de Saint-Martin-d'Arcé, proche de la petite ville de Baugé. Nous donnons aujourd'hui la parole à Bert Schumann, le responsable du stage organisé fin août. Chez les Schumann-Huette, on s'implique en famille pour la bonne gestion du château et le bonheur des stagiaires. Je viens de passer une semaine au château de Grésillon, que je ne connaissais pas encore, et je ne pouvais pas partir sans interviewer Bert Schumann.
Bonjour, très saluton.
Est-ce que tu peux résumer un petit peu l'histoire du château tel que tu la connais?
En fait, je ne connais pas grand-chose, mais je sais ce que les autres ont raconté ou ce qui se trouve dans le site internet. C'est quelques années après la guerre que les esperantophones, les profs, les professeurs, les enseignants, ils se sont rencontrés chaque année dans un lieu pour enseigner les nouveaux profs. Et donc pour éduquer les profs qui enseignent ensuite l'esperanto aux élèves. Et ils trouvaient ça toujours un peu cher. Et à organiser l'organisation de préparation, il fallait refaire à chaque fois dans un nouveau site. Et ils cherchaient un endroit pour qu'on conserve en continu.
Un lieu pédagogique, donc.
Oui.
Qui serait fixe.
Oui, voilà. Et donc, la plupart des gens, ils pensaient plutôt à une maison, une grosse maison, comme une petite héberge de jeunesse. Mais la personne qui s'est occupée de la recherche, il a suivi un notaire qui a donné plusieurs propositions. Et ils sont tombés sur le château de Grésillon, entre autres. Et cette personne-là, elle est tombée amoureuse du site. Mais c'était trop cher. Mais le notaire avait bien noté ça. Et il est revenu plusieurs fois dessus et il a cherché une solution pour que le château puisse être vendu quand même, parce que c'est parmi ses dans sa profession de vendre quelque chose.
D'accord.
Et donc, il a proposé de vendre seulement le château sans le parc, sans le gros terrain autour, qui n'était pas absolument nécessaire, parce qu'on pouvait acheter quelques centaines de mètres, la cour, etc., et l'entrée. Et donc, après des appels avec les différentes sociétaires de la Maison culturelle des espantistes françaises. La société s'appelait d'abord Maison culturelle des espantistes françaises. Donc, il a mené des appels pour les convaincre de donner plus d'argent pour pouvoir acheter le château même. Donc, il a réussi. Et si je me rappelle bien, sur le terrain, les arbres ont été tous abattus pour être vendus. Et avec l'argent reçu, ils pouvaient acheter tout le terrain qui appartenait au château.
D'accord. D'où et la création des nombreux espaces verts. Des nombreux espaces verts, le terrain
de camping. Je suppose que c'était quand même déjà avant comme ça, parce que les arbres, ils sont poussés ensuite tout seuls.
Et l'achat date de quelle année, précisément?
Je crois autour de 50. Donc,
voilà, 1950 environ, donc, Negavas.
Peut-être en septembre 1951.
D'accord.
Mais la société a été créée un an avant, déjà pour collectionner des fonds, pour tout préparer, avant de trouver un site. Et après la coupure des arbres, ils sont repoussés. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui un très beau parc, forêt. Et tout semble comme c'était déjà depuis longtemps comme ça.
Oui, très bien. Et donc, le château de Grésillon est devenu pendant plus de 50 ans un des hauts lieux de la culture espérantiste en France. Et ensuite, il y a eu quelques problèmes peut-être dû à la sécurité, aux normes, au respect des normes. Est-ce qu'on peut parler de ça ou pas ?
Un peu, je ne connais pas grand-chose. La première personne qui a géré ou qui s'occupait de l'achat, de l'acquisition, s'appelle Henri Micard, qui ne vit plus depuis 1966. Donc c'est quelques années après son décès. Et entre 1950 et un peu avant 2000, c'est Pierre Babin et son épouse Luce qui se sont occupés du château, qui ont géré plus ou moins tout. Ensuite, les enfants, un de ses enfants, Dominique Babin, pendant quelques années. Et c'est autour de l'an 2000 qu'il y avait des problèmes de sécurité. Si c'est vrai, il y avait une société, une entreprise qui voulait acheter deux châteaux proches une à l'autre. Ils avaient trouvé un et ils se sont demandé si on pourrait acheter Grésillon, qui était peut-être en difficulté financière. Là, je ne sais rien de précis.
D'accord. Donc peut-être une intervention extérieure qui aurait...
Qui a déclenché des visites de sécurité.
D'accord. Oui, parce que c'est particulièrement difficile. Un domaine pareil, c'est un problème très difficile à gérer au quotidien. Comment en faire une affaire peut-être pas rentable, mais au moins qui ne perde pas d'argent.
Oui, c'est ça, parce que c'est... C'est à but non lucratif.
Et il est utilisé simplement une partie de l'année.
Oui, quand les espérantistes sont là, et voilà. Disponibles.
Oui.
Ils veulent faire des stages, des cours.
Mais par contre, les bâtiments, ils s'usent toute l'année, entre autres.
Oui, malheureusement.
Oui.
Donc, un des problèmes, c'était qu'on a découvert ou constaté que l'accès au deuxième étage est trop long. En cas d'incendie, il y a trop de chemin à parcourir avant d'arriver à l'extérieur.
Voilà, c'est pourquoi il est condamné à l'heure actuelle.
Oui, et c'est uniquement les sociétaires qui font des travaux qui peuvent rentrer à leur propre péril.
D'accord.
Et donc ? Et on étudie la possibilité d'ajouter un escalier de sécurité à l'extérieur pour commencer à utiliser une partie du deuxième étage de nouveau.
Voilà. C'est sûr que quand on voit ce beau site, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir ces problèmes-là, mais les normes actuelles sont particulièrement draconiennes vis-à-vis de la sécurité.
Je pense qu'ils sont devenus plus draconiennes à cause des problèmes qu'il y avait dans d'autres sites, dans des hôtels où il y avait des feux, des vieux hôtels à Paris, je pense, avec peu d'escaliers. Et l'autre problème, c'était la mise en norme au niveau de l'hygiène dans la cuisine. Parce qu'avant, on cuisinait comme en famille.
Ouais.
Et maintenant, on applique des règles assez strictes.
D'accord. Et donc, je sais que tu ne souhaites pas parler de ton travail personnel, mais plutôt du travail de ton équipe, de l'équipe du château. Quelles sont les personnes qui interviennent à l'heure actuelle ?
Moi, je connais le château depuis après 2000, l'an 2000, je ne sais plus en quelle année que le château existe en tant que lieu espérantiste. Et pendant des années, d'abord, je suis allé au week-end de travail avec les personnes qui géraient ça, qui s'occupaient de ça. J'aimais bien m'occuper des plantes, des haies, couper les arbres autour du lac. Et après, il y avait des changements de personnes. Et depuis 2010, je suis plus ou assez actif dans le conseil d'administration pour gérer les sites, pour faire la pub sur les stages à venir. L'inscription, et cette année, je gère la première fois. Donc je suis responsable en stage que j'ai moi-même imaginé à cause d'une rencontre qui avait lieu juste avant, qui était Festo, un festival des jeunes avec plein de musique.
Voilà, dont on a parlé
donc,
avec Armel.
J'espérais que d'avoir quelques jeunes qui restent, et en fait, il y a une, deux familles qui sont restées et quelques personnes pendant plusieurs jours. Et aussi mon expérience pour l'organisation des congrès internationaux d'enfants, IICO, Internacional Infano Congresseto. Donc je voulais faire quelque chose pareil ici pour des familles.
Voilà, c'est un, effectivement un cadre idéal pour les familles. Et là, j'ai rencontré plusieurs familles, françaises, belges notamment. On a vu un couple de Mexicains, un groupe d'une vingtaine de Chinois ont passé 24 heures. Ça a été un régal de faire toutes ces rencontres et le cadre est idéal pour ça.
Oui, mais c'était entre 20, 30 et au maximum 50 ou plus de personnes qui occupaient les lits, le camping ou qui mangeaient ou ne mangeaient pas, qui arrivent, qui repartent. Et il y a parfois des gens qui arrivent le matin, est-ce que je peux manger ou je peux rester une nuit? Donc ce n'est pas facile à gérer,
et oui.
Mais c'est intéressant et enrichissant.
Et combien de personnes dans l'équipe organisatrice?
Bon, ça c'est, on peut compter entre plusieurs personnes très actives et une dizaine ou vingtaine qui participent de temps en temps.
Qui donnent un coup de main.
Ouais.
Et dans les très actifs, vous êtes bien 6, 7 ou 8?
Selon qu'on compte.
Voilà. Et familialement, donc je connais ta fille Gretel. J'ai vu ton épouse Jannick juste le premier jour, mais elle a, en fait, elle est repartie. Elle a animé un stage précédent.
Oui, la semaine touristique.
D'accord.
Et avec des excursions toute l'après-midi qu'elle a imaginées elle-même.
D'accord. Et tu as un fils également?
Qui s'appelle Johan.
Johan.
Qui a 15 ans encore.
Et donc toutes ces activités, ce dévouement pour le château, c'est une histoire de famille? Non,
c'est plus facile de le faire en famille si époux et épouse s'intéressent.
Voilà, et les enfants aussi.
Donc l'une a entraîné l'autre. Parce que tout seul, je ne viendrai pas en week-end ici
Bien sûr.
Pour faire des travaux, organiser des choses d'organisation. Donc c'est quelque part une histoire de couple quand même.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup à la famille Schumann-Huet. Et donc à ce dévouement pour la vie du château de Grésillon, Dan Convert.
Et j'espère que vous venez un jour. Par exemple, à la fin de l'année, il y a une rencontre pour chasser les fantômes du château qui commence après Noël et qui se termine avant la rentrée du Nouvel An.
D'accord. Et... Donc, Anne-Marie, qui a participé à votre fête de fin d'année l'année passée, donc Anne-Marie de Dordogne, nous en est revenue absolument enchantée. Dan kon, mi dan kegas vin.
Bonne, tschüss.
Tschüss.
Estas ĉio ĉi traten kaj spaco flugas ni la tero ekzistas ne plu de ĉiuj homoj restis du. Nun flugas ni en la ĉiel, la nova tero estas la cel. Ĉu ni finfine trovos ĝin antaŭ la morto kaptos nin. Tenu min, mia amiki, firme nun, savu min, tenu min, gis la fin, mi diras tenu.
C'était l'espérantiste allemand Ralf Glomp dans Tenumin, tiens-moi. Le sketch d'aujourd'hui s'intitule Ancora una chance, encore une chance. Je donnerai d'abord la réplique à Dorothée, puis Martine et moi traduirons ce sketch avant de vous en proposer une deuxième version. Ancora una chance. Mi estas bonhava signoro, kaj vi, Dorothée, vi estas lia edzino. Ni estas en sid chambro, en nia sid chambro. Lia edzino legas libron.
Ĉu vi intencas uzi la automobilon morgaŭ matene?
Li legas ĵurnalon. Morgaŭ matene? Kial?
Mi devas viziti la frizistinon.
Vi vizitas la frizistinon tro ofte. Vi preskaŭ loĝas tie.
Ridinde, vidu miajn harojn. Ili similas al ŝvabrilo.
Ili estas tre belaj. Mi admiras ilin.
Mi ne intencas prokrasti la viziton.
Morgaŭ matene mi devas viziti la urbon.
Informu la ŝoforon, ke ankaŭ mi akompanos vin.
Je kioma horo?
Circa la deka.
Tiu nova ŝoforo estas tro riskema. Mia opinie, li estas tro juna por tiel respondeca posteno.
Li havas 20 jarojn.
Mi scias, sed li ne havas sufiĉan sperton por la aliaj taskoj.
Ĉu io malbona okazis?
Mi trovis, ke li akceptas riskojn, ne necesajn riskojn.
Li lernos.
Hodiaŭ matene li kaŭzis preskaŭ 4 akcidentojn. Mi devas trovi novan ŝoforon.
4 akcidentojn?
Oni riskas la vivon, kiam li veturigas.
Ne trovu novan ŝoforon, mia kara. Dono al li ancora unu ĉancon.
Martine se joint à moi pour vous traduire ce sketch. Martine, le titre, c'est « Ancora una chance ».
Encore une chance de plus.
Voilà. Les rôles sont « Bonhava signoro ».
Un homme aisé.
Aisé, voilà. « Bonhava » qui possède de bonnes choses. Hein. Mm-hmm. Voilà, aisé. « Kai lia edzino ».
Et sa femme.
Voilà. « En si chambro cesi ».
Dans le salon chez eux.
Très bien, dans leur salon. Donc, c'est madame qui commence. Mm-hmm. La edzino legas libron.
Donc, la femme lit un livre.
Ĉu vi intencas uzi la automobilon morgaŭ matene?
As-tu l'intention d'utiliser la voiture demain matin?
Le monsieur legas journalon.
Lit le journal.
Morgaŭ matene? Kial?
Demain matin, pourquoi?
Mi devas viziti la frizistinon.
Je dois aller chez la coiffeuse.
Alors, frisée est donc celle qui frise professionnellement. Hein?
Oui.
Frisisto serait un coiffeur, frizistino, une coiffeuse. Vi visitas la frizistinon tro ofte.
Tu vas voir la coiffeuse trop souvent.
Vi prescau loggias tie.
C'est tout juste si tu y habites pas.
Voilà. Ridinde.
Ridicule.
Très bien. On voit le suffixe inda qui mérite de, mais là sous forme d'un adverbe, puisqu'il n'y a pas de substantif. Donc, ridinde, effectivement, din qu'on en rit, donc c'est bien ridicule. Vidu miain haroin.
Regarde mes cheveux.
Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en espéranto, on emploie souvent le verbe vidu pour dire regarde.
Ah oui.
Rigardu existe, mais on.
Oui, vois mes cheveux.
Voilà, vois mes cheveux, mais c'est bien. Nous, on dit plus volontiers regarde.
Oui.
C'est bien regarder qu'on demande d'ailleurs. Ili similas al schwabrilo.
Il ressemble à un balai à franges.
Voilà. Alors, on ne va pas le cacher, hein, ce mot, on l'a découvert dans notre dictionnaire.
Ah oui, parce que schwabrilo, ouais. On ne savait pas.
Ilo, c'est un outil, voilà. Mais c'est schwabri, donc, qui est balayé avec ce balai particulier. Ili estas tre belai.
Ils sont très beaux.
Mi admiras ilin.
Je les admire.
Bon. Mi ne intensas procrasti la visiton.
Je n'ai pas l'intention de déplacer le rendez-vous.
Voilà, de le déplacer, de le remettre. Morgaŭ matene mi devas viziti la urbon.
Demain matin, je dois aller en ville.
Informu la ŝoforon ke ankaŭ mi akompanos vin.
Informe le chauffeur que moi aussi, je t'accompagne.
Je kioma horo.
À quelle heure?
Circa ou la deca.
Aux environs de 10 heures.
Tiu nova chauffeuro estas tro riskema.
Ce nouveau chauffeur est trop risqué.
Mia opinie, li estas tro juna por tiel respondeca posteno.
À mon avis, il est trop jeune pour une telle responsabilité.
Très bien. Mia opinie, hein, c'est une...
Selon moi.
Voilà, là, on aurait pu dire laomi, mais c'est assez typique de l'espéranto de créer ces adverbes comme ça, en un seul mot, mia opinie. Li havas dudek jarojn.
Il a 20 ans.
Le mari répond, mi scias, sed li ne havas sufiĉan sperton por la aliaj taskoj.
Je le sais, mais il n'a pas assez d'expérience pour les autres tâches.
Ĉu io malbona okazis?
Est-ce que quelque chose de mauvais a eu lieu?
Mi trovis ke li akceptas riskojn, ne necesajn riskojn.
J'ai trouvé qu'il acceptait des risques non nécessaires.
Voilà. Bon, peut-être qu'en français, on dirait
utile.
De prendre des risques, tandis que là, le mot « accepti » est utilisé de manière transitive. Il accepte les risques. Li lernos.
Il apprendra.
Hodiaŭ matene, li causis preskaŭ kvar accidentoj.
Ce matin, il a presque causé 4 accidents.
Provoqué
4 accidents.
C'est peut-être un peu exagéré, là.
Hein, ouais, je pense.
Comme situation.
On pourrait dire aussi, il a failli provoquer 4 accidents.
Oui, faillir, c'est très bien. Ouais. Oui. On n'est pas obligé de faire une traduction mot à mot.
Hein. Non,
en français, on emploie facilement ce mot,
faillir.
Il a failli
provoquer 4 accidents.
Yes. Mi devas trovi novan chauffeuron.
Il faut que je trouve un nouveau chauffeur.
Kvar accidentojn?
4 accidents?
Oni riskas la vivon, kiam li veturigas.
On risque notre vie. Quand c'est lui qui conduit.
Voilà. Ne trovu novan chauffeuron, mia cara.
Ne cherche pas un nouveau chauffeur, mon cher.
Donu al li ancora unu chanson.
Donne-lui encore une chance.
Bon, qu'est-ce qu'elle lui trouve, l'épouse, hein, ce nouveau chauffeur? Moi, à la place du mari, je me méfierais quand même un petit peu. Et voici maintenant une deuxième version de ce sketch. Ancora unu chanco. Bonhava signoro, kaj lia edzino estas en sidĉambro ĉe si. La edzino legas libron.
Ĉu vi intencas uzi la aŭtomobilon morgaŭ matene?
La edzo legas ĵurnalon. Morgaŭ matene? Kial?
Mi devas viziti la frizistinon.
Vi visitas la frizistinon tro ofte. Vi preskaŭ loĝas tie.
Ridinde. Vidu miajn harojn. Ili similas al ŝvabrilo.
Ili estas tre belaj. Mi admiras ilin.
Mi ne intencas prokrasti la viziton.
Morgaŭ matene mi devas viziti la urbon.
Informu la ŝoforon ke ankaŭ mi akompanos vin.
Je kioma horo?
Ĉirkaŭ la deka.
Tiu nova ŝoforo estas tro riskema. Miaopinie, li estas tro juna por tiel respondeca posteno.
Li havas 12 jarojn.
Mi scias, sed li ne havas sufiĉan sperton por la aliaj taskoj.
Ĉu io malbona okazis?
Mi trovis, ke li akceptas riskojn. Ne necesajn riskojn.
Li lernos.
Hodiaŭ matene li kaŭzis preskaŭ 4 akcidentojn. Mi devas trovi novan ŝoforon.
4 akcidentojn?
Oni riskas la vivon, kiam li veturigas.
Ne trovu novan ŝoforon, mia kara. Donu al li ankoraŭ unu ŝancon.
C'est fini pour aujourd'hui. Dans les prochaines émissions, nous vous proposerons encore quelques interviews enregistrées au château de Grésillon et bien sûr de nouveaux sketchs. À bientôt, Gisbaldau.
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 Gisbaldau.